Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Ciel. Ici Nathalie Garraud pour l'émission Un chemin pour s'épanouir, donc en présence d'Émilie. Bonjour Émilie.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Bah écoute, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, aujourd'hui, j'aimerais poursuivre les réflexions qu'on partageait les mois précédents. Et aujourd'hui, le message que je voudrais diffuser vraiment, c'est « Ta vie est entre tes mains et elle deviendra ce que tu en feras ».
Donc, après le courage et la persévérance qui permet d'aller plus loin qu'un courage isolé, le fait de regarder ce qui va bien et s'en nourrir, ça c'est ce que tu nous proposais dans les émissions précédentes, tu nous invites à faire encore un pas en mettant l'accent donc sur la direction qu'on désire donner à notre vie aujourd'hui. Et le cap, c'est quand même important.
Voilà, le bonheur, tout à fait. Et donc, par cette émission, je voudrais vraiment partager des secrets du bonheur. Mais je me rends compte que si tu donnes des clés à quelqu'un et qu'il s'obstine à donner des coups d'épaule pour ouvrir la porte, c'est pas la porte qui est l'obstacle, mais c'est celui qui refuse de mettre la clé dans la serrure, donc pour l'ouvrir, et qui cherche à agir par la violence, qui refuse d'apprendre et d'écouter.
Tu veux partager peut-être en fait une sorte de regret quand les gens ne... On parlait de cadeaux le mois dernier, quand les gens ne prennent pas les cadeaux qui leur sont offerts. Ouais, t'as un regret par rapport à ça?
Alors, plus qu'un regret, parce que tu disais que j'aime bien le côté positif, c'est émettre un appel à ouvrir les yeux, si on veut rester optimiste. Actuellement, on a pu voir régulièrement du mal-être ces derniers mois, des gens qui se plaignent ou qui détruisent. Et ça me fait mal de voir ça. Je comprends qu'il y a des souffrances. J'entends qu'il y a des doléances. Mais je suis choquée de voir des gens qui crient sans avoir parlé avant. Et j'aimerais inviter les gens à agir plutôt que réagir. Je veux dire, ne pas attendre que tout explose pour essayer de faire avancer les choses. Agir dès le début, s'investir, ne pas attendre l'indignation, comme on disait avec Guillaume dans l'émission du mois de mars, je crois. Et donc, par exemple, j'ai vu ça toutes ces années passées en bénévolat dans un peu toutes sortes de domaines de vie. Bon, les années que j'ai le plus consacrées dans un domaine, pour l'instant, c'est une dizaine d'années en tant que déléguée de parents d'élèves, de la maternelle au collège. Ça donne un certain recul sur les différentes institutions, les associations aussi, les responsabilités au sein des établissements, les enseignants, les parents et les élèves.
Et à travers ces engagements-là, tu as constaté que peut-être il y avait... pas assez d'action.
Alors, pas assez, ce serait un jugement, mais en tout cas, que clairement, on peut faire plus, comme on disait le mois dernier, au sein de la maison. Si tu veux, une des doléances des enseignants, c'est de ne pas réussir à voir les parents des enfants en difficulté ou des élèves perturbateurs, alors que, ils aimeraient justement générer un dialogue. Bien sûr, les enseignants sont heureux de rencontrer les parents d'élèves, des élèves qui travaillent bien, qui ne posent pas de problème, mais ils voudraient vraiment résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les élèves en difficulté. Et sans la présence des parents, c'est compliqué.
Bien sûr.
Et donc, cette rencontre avec les parents qui peut permettre de parler, de proposer des idées, d'essayer de comprendre, cette recherche de solutions est encore complexe à mettre en œuvre. Et j'étais à plusieurs reprises confrontée à des parents violents qui agressaient les enseignants alors que les enseignants faisaient leur maximum. J'ai même été personnellement menacée en tant que déléguée de parents d'élèves par un papa qui est venu jusque chez moi un dimanche. Bon, j'avoue, j'ai été assez choquée par cette violence. Outre le fait que j'étais bénévole, donc je donnais de mon temps et de mon énergie pour les élèves et les parents, en fait, j'ai été heurtée par cette violence exprimée contre moi par ce papa qui ne voyait absolument pas ce que je donnais déjà. Donc c'est cette fameuse prise de conscience dont on parlait le mois dernier. Il voulait m'agresser parce qu'il n'arrivait pas à agresser les enseignants. Et j'ai vraiment eu l'impression de voir un peu la folie humaine en face, si tu veux, un homme en plein délire. Et ces derniers temps, c'est un peu l'impression que je ressens parfois face à l'actualité, une sorte de folie, que cette actualité soit sociale, économique, écologique ou autre en fait.
Alors, ce que tu appelles la folie, moi je dirais peut-être une sorte d'hystérie ou de fébrilité,
quelque chose qui déborde en fait.
Voilà, alors... Pour éviter ou en tout cas peut-être pour faire avec ce climat, quel conseil tu pourrais nous donner ?
Alors, dans tout mon parcours de développement personnel, j'écoute notamment les méditations de Deepak Chopra. Et à un moment, il indique que le fait de vouloir avoir raison induit que l'autre doit avoir tort. Et c'est tout à fait réel. Donc, parce qu'en fait, il y a dissociation. Dans ce cas, il y a opposition et séparation au lieu de chercher à rester unis vers une même recherche de solution. Donc, le fait de s'opposer nous fait perdre des forces, alors qu'il serait plus utile, au contraire, d'allier nos énergies vers un but commun. Très récemment, j'ai été confrontée à un problème qui a généré une souffrance violente en moi. Je ne trouvais pas de solution et comme j'avais à cœur d'en trouver une, j'ai écrit à mes sœurs pour leur demander conseil. Et l'une d'elles, au lieu de me conseiller, m'a abreuvée de critiques violentes, donc je les ai prises en pleine figure. J'étais pas bien avec ces critiques, ça m'a fait mal. J'ai mis un temps de pause pour digérer ces écrits et laisser le temps de se calmer. Parce que en fait, c'était un peu comme si elle vidait ses poubelles en cherchant à opposer les personnes que, au contraire, je cherchais à unir par plus de compréhension. Et donc, je cherchais des clés de compréhension que j'avais pas trouvées et qui me posaient problème. Et là, je me trouvais confrontée à un autre problème, donc de double violence, alors qu'au contraire, je cherchais un chemin vers la paix. Donc, une chose à la fois, si tu veux, je me suis concentrée sur la première situation que je désirais résoudre pour rester focus et pas disperser mes forces.
Alors ça, tu nous en parles régulièrement, ce que tu appelles le focus. Est-ce que tu pourrais préciser un petit peu cette idée-là?
En fait, le focus, ça permet de ne pas s'éparpiller pour être plus efficace. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se laisse distraire de son but premier, à chaque fois, on perd du temps et on retarde la résolution du premier problème. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas en résoudre entre-temps, mais après, il faut savoir quelle est notre priorité, tout simplement. Si tu veux, David Laroche donne une image que j'aime bien à ce sujet, c'est-à-dire que il est plus facile d'arracher un arbre quand il est jeune avec des racines encore petites que si tu l'as laissé grandir, que les racines ont pris de la vigueur, ont grandi, se sont développées sur une grande longueur sous terre, etc. etc. Ceux qui ont arraché des pousses d'acacia peuvent en avoir une idée très précise. Je me rappelle quand j'étais petite, papa nous demandait toujours d'arracher les petites pousses qu'on voyait dans le jardin. Et je le faisais, mais sans forcément comprendre l'importance. Mais quand je le voyais après avec la tronçonneuse, ça fatigue rien que pour élaguer les branches de l'acacia adulte, donc les branches, pas le tronc. Je comprenais vraiment l'importance de traiter le problème à la racine. Si on peut reparler de la question des gilets jaunes, je trouve que c'est un exemple flagrant de l'importance de traiter le problème à la racine.
Alors, par l'ampleur du mouvement ?
Déjà parce que le gouvernement n'a pas su y répondre tout de suite, c'est-à-dire en temps et en heure. Il aurait répondu en acceptant et en répondant à toutes les exigences premières des gilets jaunes, ça aurait calmé les choses. Et là, une fois qu'il l'a fait, donc beaucoup plus tard, et au lieu d'être satisfaits, ils ont répondu « ça nous suffit pas, on veut plus ». Et on est arrivé au bras de fer donc, qui a bloqué l'économie de notre pays pendant des semaines et qui même par moments a pu tourner à la guerre civile selon les moments avec les émeutes qu'on a connues, les destructions, les dérapages. Donc le fait de continuer de rajouter de l'eau sur le feu, c'est pas pris dans un contexte global pour répondre de façon cohérente aux différentes exigences du pays. Et ça n'arrange rien d'un côté comme de l'autre.
Alors, tu encourages chacun donc à plus de mesures. Je vais prononcer ce terme qui est très important, qui est le discernement.
Oui, parce que c'est une question d'équilibre et à chacun aussi de prendre ses responsabilités. Parce que j'entendais il y a quelques semaines à la radio que ce mouvement avait généré plus de 30 millions de pertes matérielles, de 45 millions de préjudices pour perte d'activité avec tous les commerces, la mise au chômage de leur personnel et tout. Bon, c'est un chiffrage partiel et puis tout évolue. Mais il y a les clients perdus, les touristes qui ont déserté le pays pendant un moment, les liquidations des petits commerces. C'est énorme cette destruction au nom d'une revendication. Et je pense que agir avec patience et persévérance, comme on le disait en janvier, c'est quand même quelque chose d'important. J'ai une citation d'Olivier Clerc que j'aimerais bien rappeler parce que je trouve qu'elle l'illustre vraiment. Parce qu'il dit « Quand vous vous inscrivez dans un club d'arts martiaux, donc Mars, c'est le dieu de la guerre, vous trouvez normal de vous entraîner une ou deux fois par semaine et vous savez qu'il vous faudra plusieurs années avant d'obtenir les ceintures orange, verte, noire, un jour, qui sait. Et on ne devient pas première dame de karaté après un stage d'un week-end, si tu veux. » Mais il nous rappelle qu'il en va de même avec les arts vénusiens, donc Vénus, la déesse de l'amour, c'est-à-dire quand on parle de gratitude, d'empathie, d'amour, de douceur, le pardon, l'écoute, la bienveillance, etc. Tu vois, là, les domaines sont multiples. On a plein de jardins à entretenir. Si on inscrit cette pratique dans la durée, en y consacrant un peu de temps chaque semaine, et ben dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ben peut-être qu'on deviendra ceinture verte d'empathie, dans 5 ans, ceinture bleue de gratitude, et dans 10 ans, ceinture noire de pardon. Et vraiment, je trouve cette image très parlante.
C'est très parlant, en effet.
Et j'aime bien cette image aussi parce qu'elle montre l'évidence de la persévérance et l'importance de chaque geste ou de chaque mot que nous faisons, que nous disons, de chaque pensée que nous nourrissons aussi. Et je trouve que ça met en lumière en fait l'importance d'une bonne communication. Je veux dire savoir se faire comprendre, trouver les mots, les images qui parlent à l'autre et la façon de s'adresser à lui aussi.
Alors, c'est-à-dire ?
Bah, par exemple, quand tu cries après quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait ? Il se bouche les oreilles. Et la communication est rompue, donc c'est pas la peine de rêver au moindre dialogue, déjà que tant que la situation ne s'est pas apaisée et que le lien n'a pas été rétabli, si tu veux. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut nettoyer, c'est-à-dire enlever les épines, s'excuser, demander pardon selon la gravité des blessures, mais surtout ne pas rajouter d'huile sur le feu dont je parlais un peu il y a quelques minutes. Parce que tant que les plaies sont à vif, si tu t'approches de celui qui est blessé, et même avec toute la bonne volonté du monde, au moindre mouvement où tu le touches, même un geste doux, tu réveilles la souffrance. Et donc, une caresse sur une plaie, c'est pas une caresse, c'est une douleur. Donc, l'étape suivante, après le temps de cicatrisation, ben, là, tu peux instaurer les bases d'un dialogue, d'une écoute mutuelle et d'une volonté de construire ensemble.
Ça, je précise tout de suite, parce que tu faisais référence au mouvement des Gilets jaunes, mais que ça concerne aussi les personnes à qui ils s'adressent.
Ah, mais donc, c'est toutes les situations, c'est ce que je disais, d'un côté comme de l'autre.
Voilà. Et ça, c'est très
tout le monde a sa responsabilité.
C'est très important, même dans les pratiques politiques, c'est vrai que ce sont des usages qu'on n'a pas...
Politique, entrepreneurial, à tous les niveaux. Enfin, chacun sa responsabilité. Ça, c'est vraiment très, très, très important de le souligner. Tu as raison.
Alors, c'est important de réfléchir à ce qu'on fait avant d'agir, c'est ce que tu nous dis, et de penser aux conséquences, en fait, de façon la plus large possible.
C'est ça. Parce qu'en fait, tant que tu joues solo, ben, tu ne peux pas jouer grand. Après, tout le monde n'a pas l'envie ou l'obligation de jouer grand. Enfin, je veux dire, chacun décide. On revient au principe de responsabilité. Mm-hmm. Mais par contre, dans ce cas, quand tu veux jouer solo, ben, il ne faut pas envier les avantages de ceux qui visent haut et oublier les inconvénients qu'ils ont supportés à la même hauteur. C'est la question des niveaux différents. Par exemple, un élève en primaire avec 4 jours de travail par semaine, ben, il ne peut pas enlever la liberté d'un collégien, par exemple, qui un jour peut avoir 10 heures de cours et l'autre jour quitter à 15 heures. Il doit aussi prendre en compte le fait que le collégien, ben, il a le mercredi, il a plus de devoirs, il doit s'adapter avec les changements d'horaire, avec les changements de professeurs, les changements de salle. Enfin, chaque situation a toujours ses deux côtés de la médaille, avantages, inconvénients. Et il faut penser à conserver cette vision globale, comme on le disait avec l'exemple de la marche d'escalier, si on ne veut pas la prendre dans la figure en pensant que c'est un mur. On ne parle pas, par exemple, pour reprocher à l'autre de ne pas nous écouter. Enfin, je reformule. Si tu ne parles pas, tu ne peux pas reprocher à l'autre de ne pas être écouté.
Et ça, ça me refait penser ce que tu dis, parce qu'on parlait un peu de mouvements sociaux. C'est vrai que parfois, quand il y a des grèves, je pense aux cheminots, par exemple, on est souvent les premiers à dire « Oh là là, bah oui, mais enfin, ils sont privilégiés, pourquoi ils font grève ?» Et c'est vrai qu'on n'a pas cette vision globale de, comme tu disais, des collégiens et des élèves de primaire. On n'a pas cette vision globale.
Et puis la communication dont on parlait aussi.
Alors, c'est pour ça que tu mets l'accent sur la communication, mais la communication appropriée.
C'est ça. Parce que je pense que la première responsabilité des gens, c'est de s'exprimer calmement, sans vindicte, donc, c'est-à-dire sans colère, en sachant et sans revendication violente. Et en sachant aussi écouter l'autre et en acceptant que lui aussi a ses propres problèmes et ses propres limites et son droit à la différence et à ne pas être d'accord. Imposer par la violence, si tu veux, ça ne permet pas une solution globale. D'où l'importance du respect et du non-jugement. On a vu l'an dernier les conséquences du jugement, de la culpabilité dans les émissions précédentes. Personnellement, la violence me choque, je pense que je l'ai déjà dit. J'entends des casseurs qui disent « Oui, mais si j'avais pas été violent, j'aurais pas été entendu ». Ben, ma question, c'est est-ce qu'ils ont cherché à parler à qui que ce soit avant de tout casser? Bon, de toute façon, un casseur voudra casser pour le plaisir, ça c'est encore une autre question. Il y a plein de choses qui s'amalgament, il faut
oui,
pas,
c'est ce que
il
j'allais
faut
dire.
pas tout mélanger. Mais bon, je pense que fondamentalement que les gens qui veulent parler et partager leurs idées peuvent le faire. Par contre, clairement, oui, ça demande du temps d'organiser ses idées, de prendre rendez-vous, de rédiger un texte. Par exemple, Guillaume Kasbarian, notre député qu'on a reçu en mars, dès son élection, il a mis en place toutes sortes de supports de communication pour permettre aux gens de s'exprimer, que ce soit pour dire ce qui ne va pas ou faire des propositions constructives. Et j'ai même vu dernièrement qu'il a même fait encore autre chose pour permettre aux citoyens de réfléchir ensemble. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bon, il nous invite à être partie prenante. Mais il l'a déjà fait dès le début. Je suis allée à plusieurs reprises aux réflexions qu'il organisait avec la population, justement pour que chacun puisse remonter ses idées, ses ressentis. Et que ce soit sur les assises de la mobilité, les assises de la santé, les questions sur l'éducation nationale, enfin comment améliorer l'école. Il a fait des réunions consultatives sur des tas de sujets et sans attendre le fameux grand débat qui a été initié dernièrement. Et certains diront « oui, mais c'est une exception, parce que les politiques, c'est tous des pourris ». Mais là, je dis, il faut faire attention à ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Pour ma part, je refuse cet argument, déjà par le simple fait qu'amalgamer tout, en fait, bah, ça fait une contre-vérité. Parce qu'une exception plus une exception et encore une exception, bah, du coup, ça devient plus vraiment une exception. Et puis, c'est facile de focaliser sur ce qui va mal en disant « ça va mal ». Et si on se focalise sur ce qui va bien en disant « ça, au moins, ça va bien bah, », on avance un peu plus dans le bon sens, je pense. Et je trouve que si au lieu de toujours nier l'étincelle qui existe, on cherchait au contraire à mettre du bois dans le feu, ben vraiment, j'aimerais inciter les gens à faire ça.
Alors ça m'inspire une réflexion. Là, c'est peut-être pas le propre de cette émission de répondre à cette question-là, mais là, bon, tu nous donnais cet exemple-là, et effectivement, il y a des hommes politiques qui sont sur cet axe-là. Il y en a aussi qui sont sur cet axe, mais on entend beaucoup ça aussi chez les gens, ça fait partie des reproches, c'est de la com. Et parfois, c'est de la com.
Complètement.
Donc, comment... parce que tu disais, il faut essayer de parler. Il y a aussi des gens qui ont essayé de parler, mais qui ont été confrontés à une façade de communication. D'où l'importance d'une communication réelle, d'un dialogue qui est quelque chose de très difficile à instaurer.
Et on parlait aussi justement de la responsabilité des médias. Et là, on retourne aussi dans ce sujet-là, bien vaste.
Mais, et je fais une parenthèse qui pourra peut-être surprendre certains, mais le pape François, qui, on le sait, s'exprime beaucoup, dit des choses tout à fait intéressantes sur cette nécessité du dialogue et le fait que ça n'aille pas de soi, surtout dans le monde actuel, et surtout d'y être vraiment très, très vigilant. Alors, revenons à ce que tu disais en début d'émission. Tu nous rappelais que notre vie est entre nos mains et le mois dernier, tu disais qu'il était important de choisir ce que tu appelles le focus sur lequel on veut diriger notre vie. Encore une fois, c'est de trouver un cap.
C'est ça. Parce que c'est, en fait, je dirais, savoir être responsable de ce que l'on fait et de ce que l'on ne fait pas aussi, au lieu de se placer en victime impuissante, alors que notre seule impuissance, parfois, c'est de ne pas vouloir développer notre puissance. Parce qu'elle nous fait peur, parce que ça fatigue, parce qu'on n'a pas l'habitude, ou tout simplement par peur de l'inconnu. On revient ici aux pensées limitantes dont on a parlé dans notre émission de février 2018 sur la culpabilité. Mais elles peuvent complètement brider notre vie au lieu de nous permettre l'épanouissement qu'on peut légitimement espérer dans notre vie. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire à travers cette émission. Et, parce que qui a dit qu'on ne peut pas être heureux? Qui a dit que la vie est dure, etc., etc.? C'est simplement des affirmations qu'on accepte comme vraies et avec lesquelles on définit notre vie. Et si je décide de changer de croyance, que j'en change, je modifie le fil de ma vie.
Tu veux dire en fait que notre vérité dépend des croyances qu'on entretient et que, alors croyance c'est peut-être pas le bon terme, mais si on arrive peut-être angle de vue, mais peut-être que si on arrive à modifier ces angles-là,
les pensées de référence.
Peut-être qu'on c'est pas peut-être, c'est ça nous permet de modifier la réalité ou peut-être notre réalité.
Oui, complètement. En fait, il y a une vidéo que j'ai vue récemment sur Facebook, et en plus qui est ancienne, qui est super parlante à ce titre. Je ne sais pas si tu connais la chaîne YouTube Et tout le monde s'en fout.
Oui, c'est une chaîne qui est très partagée. On voit les vidéos un peu partout.
En même temps, elle est très drôle, mais en même temps, elle est très profonde. Et là, je suis tombée sur la vidéo sur la vérité, et elle reflète totalement le sujet. Je vous invite à aller la regarder, d'ailleurs, si ça vous intéresse, parce qu'elle met l'accent sur le fait d'avoir raison ou tort. Donc, on revient à Deepak Chopra, la séparation, etc. Donc, d'opposer les gens au lieu de chercher à se comprendre mutuellement. Mais en résumé, en fait, ça explique que si tu crois quelque chose, tu focalises ton attention sur ce qui confirme ta croyance ou ta pensée, si tu préfères, c'est une question de mots, qui du coup devient plus forte, etc. Et donc, que si tu croyais le contraire, tu mettrais le focus sur la vérité inverse et tu développerais ainsi une pensée opposée. Et donc, c'est là l'importance du regard large, c'est l'image du mur et de l'escalier, de l'image globale, et de conserver le focus simplement sur les actions à entreprendre et de ne pas se laisser détourner de son objectif, en fait.
Donc, en résumé, tu nous dis de garder quand même toujours du recul, un regard, encore une fois, large, tout en sachant conserver, je parlais de cap, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on... on ne modifie pas constamment ce qui est important pour nous et ce vers quoi on veut tendre. C'est simplement qu'il faut toujours prendre du recul.
Oui, c'est ça. Ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, ça illustre totalement le fait qu'il ne faut pas opposer les choses ou les façons de penser ou d'agir, et que tout peut être complémentaire. Et en décembre, j'avais souhaité à tous d'oser, je ne sais pas si tu te rappelles. Donc, c'est vraiment le message que je voudrais répéter. Ne pas laisser éteindre le feu. C'est notre responsabilité. Notre vie devient ce que nous en faisons. Et cette responsabilité, c'est celle des choix que nous faisons. Quand le matin, nous partons au bureau pour déposer notre enfant à l'école, on peut choisir de dire vite, vite, j'ai pas le temps. Ou on peut choisir de savourer ce moment en écoutant les petits oiseaux et en se nourrissant de ce bonheur. Et quand on parle de présent, les mots parlent d'eux-mêmes. Un présent, c'est un cadeau, comme on le disait la dernière fois. Si on ne sait pas voir les cadeaux de la vie, on se prive du bonheur qu'elle nous offre. Tout simplement, c'est notre fameuse glace fondue, perdue, c'est dommage.
Ce regard biaisé, si on peut dire, ça dépend aussi de l'univers dans lequel on vit. On parlait l'autre jour de l'importance des médias, de la façon de présenter les choses, qui met pas particulièrement l'accent sur ce qui va bien.
Bien sûr, mais là encore, on a notre libre arbitre. D'une part, de ce que nous regardons et écoutons, surtout que maintenant, avec Internet, on peut choisir tout ce qu'on veut. Et d'autre part, de ce que nous acceptons comme vérité, ou mettons de côté comme ne correspondant pas à notre vérité.
Alors là encore, c'est notre responsabilité de faire le tri et de choisir. Et je rajoute... nous, on travaille dans un média, donc pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel. La confiance que les gens nous accordent, de ne surtout pas la trahir, mais on est confronté aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, à ce qu'on appelle des bulles d'informations. Autrement dit, les gens ont tendance à aller vers des informations qui confortent leur système de pensée. Et donc, c'est vrai, c'est à chacun de sortir de ces systèmes-là pour consulter... y compris des choses qui ne vont pas dans leur sens et qui peuvent les bousculer.
Et puis aussi, au niveau de la responsabilité des médias, tu as la responsabilité des journalistes. L'autre jour, j'entendais une interview à la radio du ministre de la Santé, je crois, qui exposait tout ce qui avait avancé pour améliorer les prises en charge, les relations hôpital-pompier, par exemple, par rapport au problème de la dame qui est décédée suite à une mauvaise prise en charge. Donc le journaliste passait son temps à chercher à démontrer la ministre, il voulait la dégommer, au lieu de souligner les progrès. Donc, il grossit les problèmes pour faire le buzz, pour critiquer, pour vendre son truc, et pour générer un scandale, si tu veux, au lieu de mettre le focus sur le progrès, sur ce qui a avancé et comment on peut progresser. Et la ministre lui a listé tout ce qui avait été entrepris, toutes les conséquences positives du travail déjà réalisé en peu de temps. Et le journaliste lui demande « Oui, mais vous pouvez nous dire qu'aujourd'hui, vous avez tout fait pour résoudre cette question ?» Mais moi, je trouve que c'est n'importe quoi, cette question. On ne peut jamais répondre oui à une question comme ça. Et le journaliste le sait. Il attend son invité au tournant et ça, ce n'est pas propre. Enfin, tout au mieux, on peut répondre « J'ai fait mon maximum pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. » Et ça, c'est l'essentiel. C'est notre fameux quatrième accord Toltec. Personne n'est parfait, mais l'important, c'est de toujours faire de son mieux. Et je voyais cette émission, franchement, ça m'avait marqué.
Alors, je vais Et je vais, moi, je vais me faire l'avocat du diable un petit peu, Nathalie, de mon point de vue, parce que c'est vrai que c'est, il est aussi de la responsabilité des journalistes de contrer la communication des officiels. Si on va dans le sens de, parce qu'évidemment, le gouvernement, il est là pour dire que tout va bien.
Bien sûr.
Donc, si un journaliste est aussi là pour essayer de gratter ce qui souvent irrite les gens, mais je pense qu'il faut quand même entendre ces questions qui peuvent être un petit peu dérangeantes. Elles sont aussi là pour inciter y compris les pouvoirs publics à eux aussi prendre conscience des choses qui ne vont pas et des choses à améliorer.
Je suis c'est d'accord. Ce que je veux dire, ça c'est tout à fait important ce que tu soulignes, mais ce qui moi m'avait dérangé, c'est le côté vraiment... c'était carrément je te tends une trappe et d'inciter les gens à être en perpétuelle insatisfaction alors que la ministre expliquait, soulignait ce qui avait été entrepris, la réforme des process, la création d'un diplôme pour améliorer la qualité de l'écoute, donc ça c'est quand même quelque chose de super important, la formation des gens qui décrochent quand il y a un appel, la recherche afin d'éviter la perte d'informations, enfin, en fait tout ça c'était obéré par une petite phrase, mais en fait c'est rien du tout votre truc. Et je trouve que on oriente trop les auditeurs et les gens à critiquer, à pas être contents, alors que ce qui devrait nous nourrir c'est au contraire le bonheur et voir les pas en avant pour pouvoir progresser. C'est toujours notre équilibre, notre vision globale. Il faut voir les deux côtés. Il ne faut pas se leurrer ni d'un côté ni de l'autre. Mais par contre, être en perpétuelle insatisfaction, je trouve que ce n'est pas sain.
Alors moi, je voudrais faire une petite parenthèse parce qu'il y a il y a plusieurs semaines maintenant, les Gilets jaunes Chartrain avaient organisé une rencontre, une réunion à laquelle je me suis rendue parce que dans l'esprit de ce dont tu parles aujourd'hui, il faut rencontrer les gens, aller voir ce qui se passe pour pouvoir témoigner. Et donc, j'avais été très émue du fait que... Alors, il y a cette image des médias.
Ouais.
On présente les Gilets jaunes d'une certaine façon, avec souvent beaucoup d'amalgame, d'ailleurs.
Ah bah, et puis, de toute façon, on met ce qui fait le buzz.
Voilà. Et j'avais été frappée, et ça, tu seras sans doute heureuse d'entendre ça. Il y avait un souci vraiment viscéral de l'humain et d'aller vers quelque chose de plus humain et justement de plus de dialogue, de communication, vers quelque chose justement, ce dont tu parles, ensemble, faire une société
ensemble. Et ça me paraît essentiel de s'entendre, de s'écouter, d'essayer de se comprendre.
C'était le discours que j'ai retenu.
Et ça me paraît, enfin, c'est vraiment ce qui me paraît important. Et puis, je pense qu'on partage la même vision. Et c'est pour ça que je trouve qu'il serait temps que les gens se responsabilisent, c'est-à-dire qu'ils se donnent le droit d'être heureux, qu'eux aussi fassent ce petit pas, de se croire et donc de se rendre capable de faire quelque chose de leur vie. Et je voudrais vraiment vous dire, croyez en vous, osez être vous-même, osez être heureux, prenez votre vie en main dans la paix et laissez resplendir sous le soleil. Oui, j'insiste sur la paix quand même.
Merci Nathalie pour ce message d'espoir et puis on te dit à très bientôt sur Radio Grand Ciel.
La radio qui rapproche les hommes. Donc à bientôt et belle semaine à tous. Au revoir. It's never even that big you reach. I'd like you to feel.